C'est au chapitre 44 du livre d'Ésaïe que je vous propose d'entendre ces versets qui nourriront notre méditation ce matin. Ceux qui façonnent des statues ne sont tous que néants, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ils sont leurs témoins, elles n'ont ni la vue, ni la connaissance. Aussi seront-ils honteux. Qu'est-ce qui façonne un dieu ou font une statue pour n'en retirer aucune utilité? Voici que tous ses compagnons seront honteux. Les ciseleurs eux-mêmes ne sont que des humains. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils auront peur et seront honteux. Le forgeron, lorsqu'il fait une hache, travaille avec le charbon, et il façonne l'idole à coups de marteau. Il travaille d'un bras vigoureux, mais il a faim. Le voilà sans force. Ne boit-il pas de l'eau? Le voilà fatigué. Le charpentier étend le cordeau. Il dessine à la craie, il la fabrique au ciseau, il la dessine au compas. Et il lui donne la forme d'un homme, l'apparence d'un être humain, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fabrique également un dieu. Il se prosterne, il en fait une statue devant laquelle il fait des révérences. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il va pouvoir manger de la viande. Il cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, sa statue. Il fait des révérences devant elle, il se prosterne, il l'invoque et s'écrie « Délivre-moi, car tu es mon Dieu !» Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence, car leurs yeux sont recouverts et ils ne voient pas, et leur cœur ne comprend pas. Il ne prend pas la chose à cœur, il n'a pas assez de connaissance ni d'intelligence pour dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les braises, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une horreur, je ferai des révérences devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendres. Son cœur abusé l'égare. Il ne délivrera pas sa vie, ne dira pas « N'est-ce pas de la fausseté que j'ai dans la main ?» Avant de retraverser ce texte, chantons au cantique 240 de notre recueil « Louanges et prières » les strophes 1, 2 et 3 du cantique 240. Oui, donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés, et nous entendrons la voix de nos frères, de nos sœurs. Chers frères et sœurs, la douceur du lait et du miel de l'Évangile que nous venons d'entendre en quelque sorte grâce à l'évocation de notre organiste Jean-Dominique Pasquet contraste singulièrement avec les commencements du protestantisme. L'épopée protestante commence par de grands élans iconoclastes et de nos jours encore, le protestantisme est foncièrement iconoclaste. Est iconoclaste celui qui brise les images. On pourrait presque s'en tenir à cette définition-là. Et en tout cas, la preuve n'est plus à faire que les premiers temps des réformes protestantes ont été marqués par de nombreux actes iconoclastes, à savoir des églises catholiques saccagées, de manière à détruire aussi bien les statues que les peintures, qu'elle est contre l'idée que les protestants francophone se faisait d'un lieu de culte parfait. Protestant francophone parce que la réforme luthérienne fut beaucoup plus conciliante avec les images en faisant même un usage pédagogique. Prenons à la lettre l'interdiction de la représentation contenue dans le décalogue. Bien des protestants mirent en pièces l'art religieux de l'époque, mais aussi ce qui avait l'allure du catholicisme, à commencer par les prêtres. Outre ces exactions, le protestantisme a fait œuvre d'iconoclasme en brandissant un principe qui allait être un principe constitutif, « À Dieu seul la gloire ». À Dieu seul la gloire, pour briser les fausses images que les croyants se faisaient de Dieu, bien sûr, mais aussi de l'Église, du pouvoir, des images qui, évidemment, n'étaient pas matérielles, ce n'étaient pas des sculptures, des peintures, c'était des idées qu'il fallait briser parce qu'elles étaient fausses. Et c'est ainsi que Zwingli, par exemple, en plein carême à Zurich, se met à faire cuire des saucisses dans les rues. Cela, évidemment, pour chatouiller les narines de ceux qui faisaient jeûne, gras, enfin, qui mangeaient maigre, justement, pendant le carême. C'est une manière de dire que le jeûne auquel Dieu prend plaisir n'est pas un acte alimentaire, ce n'est pas un rituel, c'est au contraire une éthique. De son côté, Calvin ira loin dans un iconoclasme théologique qui n'avait rien de commun avec la destruction de tableaux ou de sculptures. D'ailleurs, Calvin prendra toujours sa distance avec l'iconoclasme violent qui aura pu sévir à Genève. Mais en rédigeant l'institution de la religion chrétienne, il fait œuvre d'iconoclaste. Instituer la religion chrétienne, c'est faire table rase de tout ce qui a été dit avant. C'est envoyer balader tout le thomisme, par exemple. Calvin ira jusqu'à faire œuvre d'iconoclasme sur lui-même, en s'arrangeant pour que sa sépulture ne soit pas connue, de manière à éviter toute dévotion possible. De nos jours encore, le protestantisme est iconoclaste au nom même de ce principe constitutif « à Dieu seul la gloire ». Un principe qui refuse que soient divinisées ces œuvres humaines qui ne servent que des intérêts particuliers, qui ne portent pas le projet de l'Évangile et qui ne portent pas la vie. Le protestantisme se méfie de tout ce qui veut s'absolutiser, de tout ce qui prétend régenter la totalité de la vie. Et cela, bien sûr, concerne des choses non matérielles, mais plutôt des institutions ou des personnes. Ainsi, l'iconoclasme, par la suite, ne s'est pas adressé aux représentations matérielles. L'iconoclasme a cessé de s'intéresser aux représentations artistiques pour s'intéresser plutôt aux structures politiques, aux structures de pouvoir, aux structures symboliques, aux mythologies créées par les hommes. Les représentations mentales que nous nous faisons des différents éléments qui constituent l'ensemble de notre vie, de notre quotidien, et qui, bien souvent, prennent le pouvoir sur nous, qui rognent notre liberté. À vrai dire, cet iconoclasme dont le protestantisme a été un témoin redoutable, n'est pas une lubie soudaine du XVIe siècle. Il trouve ses racines, par-delà même la crise iconoclaste du VIIIe siècle, dans les textes bibliques qui ne sont vraiment pas tendres avec les images, mais plus spécifiquement avec l'idolâtrie. Et le prophète Ésaïe en est un bon représentant. Plusieurs fois, il s'attaquera à l'idolâtrie, mais d'une manière qui n'a pas de commune mesure avec ce que nous connaissons de nos jours. Il la combattra avec l'arme qui convient, le sarcasme. Ce texte que nous avons entendu est proprement sarcastique. Il raille la pratique idolâtre. Ce que le prophète reproche à l'idolâtrie, c'est au fond la vulgarité. Et pour mettre en évidence la vulgarité de l'idolâtre, il va être lui-même vulgaire. Que fait l'idolâtre ? Eh bien, il assimile le divin à ce qui n'est que vulgaire, ordinaire, commun. L'idolâtre est cette personne capable de prendre une bûche, de la fendre en deux, d'en jeter un bout dans la cheminée pour se chauffer ou pour se préparer un repas, et de sculpter une statuette avec l'autre moitié devant laquelle elle se prosternera très religieusement. L'idolâtre est celui qui serait tout aussi bien capable de prendre un morceau de pain et de dire « c'est Dieu » et d'avoir les dévotions qui conviennent. L'idolâtre est celui qui prend le mot pour la chose qu'il désigne. C'est celui qui dit qu'il n'y a pas de différence entre notre discours et ce que notre discours essaie de décrire. Il est possible d'idolâtrer autre chose que des objets matériels. Il est par exemple possible d'idolâtrer la science. Kieslowski l'a très bien mise en film dans l'épisode « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu » de sa série du Décalogue. C'est ce film qui met en scène un homme qui a fait de la science une divinité qui doit avoir réponse à tout, qui est capable de résoudre tous les problèmes. Nous sommes en plein hiver, cet homme et son fils sont près d'un lac gelé, Le père s'emploie à calculer la résistance de la glace pour savoir s'il sera possible de patiner dessus. Après la série de calculs nécessaires, le fils est autorisé à s'élancer sur la glace. La glace rompt, le fils meurt. On peut être idolâtre en réduisant Dieu à une chose, à une idée, à une personne qui n'ont en fait qu'une valeur très relative. Sont idolâtres, par exemple, ceux qui se sont acharnés ces derniers jours sur des statues, sur des livres qu'ils ont détruits avec une haine manifeste, et une haine joyeuse. Eh bien, ces membres de l'État islamique sont idolâtres dans la mesure où ils ont considéré que les statues qu'ils cassaient étaient des divinités pour ceux qui les avaient mises dans le musée de Mossoul. Or, considérer qu'une statue peut être une divinité, c'est de l'idolâtrie. Même si on attribue à d'autres que soi-même la possibilité de considérer que ces statues sont des divinités. N'importe quel croyant doué d'un minimum d'intelligence ferait comme Ésaïe en voyant quelqu'un vénérer une chose en lieu et place de Dieu. Il se moquerait. Mais eux ne se moquent pas. Ils prennent cela au sérieux. Cela signifie qu'ils accordent une réelle importance et une forme de divinité à ce qu'ils entendent détruire. En accordant une telle valeur à ce qu'ils veulent détruire, ils montrent bien leur idolâtrie, idolâtrie qui coïncide avec leur rapport, lui aussi idolâtre, au texte fondateur qu'ils utilisent. Quand on n'est pas fichu de distinguer une statue ayant un caractère patrimonial d'une statue qui serait un objet de culte, comment espérer discerner le divin que l'on ne repère pas à l'œil nu? C'est toute la problématique que met en exergue le prophète Ésaïe. Ah, je vois la flamme dans la cheminée, ce que c'est bien. Et du coup, je veux faire pareil avec le divin. Le rapport qu'ils ont avec leur texte qui dit que toute représentation doit être détruite montre qu'il y a une absence de distance entre le texte fondateur et le réel. Et cela met en évidence que le texte est finalement pour eux aussi une idole, figée à la lettre près, qui les empêche de réfléchir à ce qu'ils font, qui réduit toute la vie à la lettre, au lieu d'ouvrir leur esprit à la variété des nuances qui font la vie. Une fois de plus, ils montrent qu'ils sont de véritables caricatures de croyants. Ils sont d'autant plus des caricatures qu'au nom de l'interdit de l'image, ils cassent ces statues en se filmant. 24 images par seconde. On ne saurait vraiment être pire caricature. Qu'ils détruisent aussi une mosquée du XIIe siècle devient une sorte de cerise sur le gâteau de leur vulgarité. Car ils sont vulgaires. Ceux qui écrasent le divin à leur niveau, ceux qui effacent toute distance entre la chose et le mot, entre la vie et la matière. Ils sont vulgaires et doivent devenir encore plus fous qu'ils ne sont s'ils se mettent un jour à voir le tableau qu'a peint René Magritte, une pipe, en dessous de laquelle il est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Voilà bien ce qu'est leur vulgarité. L'idée que tout peut être montré, déballé, sans ombre, sans suggestion, sans rien d'autre à envisager, sans qu'il n'y ait rien à interpréter. Tout serait là, littéralement. Il n'y aurait plus la moindre liberté, plus le moindre espace à habiter nous-mêmes. Car bien évidemment, détruire le patrimoine culturel, détruire les recueils de discussions, de pensées, d'évocations poétiques, c'est imposer qu'il n'y a qu'une seule réalité à laquelle il faut se soumettre, la sienne. Ce qui est en jeu notamment dans cette destruction, c'est la destruction de l'altérité, le fait qu'il y ait une autre voix que la mienne qui s'exprime. C'est toute forme d'altérité qui est réduite en cendres, ici. Et c'est donc la possibilité même du Dieu véritable qui est niée en l'absence d'une quelconque altérité possible. Cette idéologie-là ne vaut pas plus que le bout de bois dont parle Ésaïe. Et Ésaïe, en nous racontant la destinée de l'autre partie du bout de bois, celle qui va dans le feu, nous donne à penser et à sourire, un peu jaune peut-être. Mais au bout du compte, le bois qui aurait été mis dans la cheminée s'avérera autrement plus utile et même, en une certaine mesure, autrement plus vivant que celui qui aura été érigé en statuette. Parce qu'au moins, il aura permis de préparer le repas et donc de restaurer le corps de l'homme. Contrairement au bout de bois, érigé en statuette, qui lui ne répondra jamais. Et c'est ici, voyez-vous, que la théologie s'avère être une nécessité. Éviter de sombrer dans l'idolâtrie, dans la vie qui se soumet à la non-vie, qui ne devient que cendre, cela demande de s'interroger sérieusement sur ce qu'est Dieu et sur ce qu'il n'est pas. C'est ici que nous découvrons que la théologie n'est pas une discipline de luxe pour celles et ceux qui n'auraient rien d'autre à faire de leur journée. C'est au contraire une activité majeure de l'homme qui souhaite que sa vie soit tendue vers ce qui le rendra vraiment plus humain. Penser la foi, s'interroger sur ce qu'est Dieu, c'est exprimer ce que l'on révère, ce que l'on place en point de mire lorsqu'on cherche à s'orienter. C'est ce que se sont efforcés de faire les auteurs bibliques qui nous ont précédés dans le chemin de la foi, et ces textes bibliques convergent vers cette affirmation que l'on trouve sous la plume de l'école johannique, « Dieu est amour ». Énoncé théologique minimaliste, mais qui est une aide précieuse. Par exemple, dire que Dieu est amour plutôt que Dieu est justice, cela n'est pas sans conséquence. Parce que dire que Dieu est amour plutôt que Dieu est justice rend impossible une déclaration qui affirmerait que les auteurs des massacres, et cette fois de massacres sur des personnes humaines, perpétrés au nom de Dieu, méritent la mort, la crucifixion ou l'amputation de leurs mains et de leurs pieds. C'est le grand imam d'Al-Azhar, le cher Ahmed Al-Tayeb, qui s'exprime en ces termes, pour condamner les terroristes de l'État islamique. Mais ce faisant, il s'avère détenteur d'une foi qui est, pour une part, elle aussi, assez idolâtre. Voilà ce qui arrive quand on place la justice dans sa version vengeance, le donnant-donnant, imprété pour arrendu, au-dessus de la miséricorde, au-dessus de l'amour agapé qui, lui, est dans la logique du don. S'interroger sur Dieu, se demander qui est Dieu, c'est se demander ce qui a valeur d'absolu pour nous. Et c'est du coup s'interroger sur les critères que nous allons nous donner lorsqu'il s'agit de réagir à l'actualité. Quand nous songeons à la vie selon l'Éternel, c'est par exemple aux paroles d'Ésaïe que nous avons rappelées au moment de la volonté de Dieu que nous pensons. Prendre soin de l'autre, alors que sa condition est modeste, précaire, peu avenante, qu'il est dépouillé de toute superbe, n'ayant peut-être que pour seul point commun avec nous d'être lui aussi un être de chair. Faire de la théologie, c'est s'interroger aussi sur notre rapport à l'autre, précisément. Ce que récusent ceux qui veulent faire disparaître l'autre. Le Dieu que nous choisissons n'est donc pas sans conséquence pour notre vie quotidienne et pour le monde que nous entendons bâtir. La théologie n'est donc nullement indifférente à notre petite personne, ni même, par extension, à notre vie dans la société, puisqu'elle permet de mettre à jour ce qui est fondamental pour nous. La théologie nous permet de dire ce à quoi nous adhérons, elle nous permet d'exprimer notre foi, ce lien de confiance avec la vie exaltée, mais elle nous donne aussi les moyens de disqualifier ce qui est faux, ce qui réduit notre vie à n'être que cendre. ce qui se prend faussement pour Dieu. Les idéologies, les pouvoirs, les institutions, les personnes, les gestes, les rituels qui prétendent être Dieu à la place de Dieu. Autrement dit, la théologie, c'est ce qui nous permet d'être iconoclastes à bon escient. Iconoclastes en ce sens que nous sommes capables d'enrayer, de neutraliser les processus qui, au lieu de diviniser l'homme, abaissent le divin à la plus stricte vulgarité. Être iconoclaste, c'est refuser la vulgarisation du divin. C'est refuser de se repaître de cendres, selon l'expression d'Ésaïe. C'est cette attitude irrévérencieuse envers tout ce qui fait obstacle à la foi au Dieu vivant. Tout ce qui empêche cette relation intime à ce qui concourt à ouvrir les yeux sur le monde, à sensibiliser notre cœur au moindre battement de vie, à exposer notre intelligence à la formidable complexité de l'humanité. Cette humanité qui aspire à la vie selon l'éternel, cette vie libérée du vulgaire. Cette vie libérée de ce qui écrase, cette vie sublimée, cette vie transcendée. La foi chrétienne est iconoclaste de la vie vulgaire. La foi chrétienne se fait le chantre de l'éternel, le Dieu miséricordieux qui nous attire, qui élève notre âme, pour le dire en des termes religieux. Ce Dieu miséricordieux qui nous attire pour prendre soin de chacun, qui exacerbe notre conscience, conscience d'une vie resplendissante, joyeuse et fraternelle. La fraternité trouve son caractère illimité justement dans la réflexion théologique. La foi chrétienne chante une fraternité qui n'est pas quelque chose à vivre à l'étroit, avec ce qui est conforme à nos pensées premières, avec ce qui nous ressemble en tout point, avec ce qui ne diffère pas. La théologie chrétienne nous fait découvrir que le frère est aussi celui qui est différent, celui qui diverge. Le Dieu miséricordieux, le Dieu amour agapé, est cet appel incessant à découvrir un frère, une sœur, chez tous ceux qui partagent notre condition charnelle, quelle que soit la forme, la couleur, l'odeur que prend cette chair, quel que soit le chemin qu'emprunte cette chair. Ce Dieu miséricordieux, ce Dieu amour agapé est celui qui nous attire pour aimer ce frère, cette sœur, inconditionnellement. Amen.